Bonsoir à toutes, à tous. La première partie de ce cours d'anthropologie aborde le centre même d'une anthropologie chrétienne et théologique qui est le rapport entre le Christ et nous, entre le Christ et l'homme. Pour notre salut, pour nous, il est descendu du ciel. Donc le célèbre pour nous. Et la question que nous allons poursuivre finalement à travers l'ensemble de cette longue première partie, c'est toujours un peu une même question, comment comprendre cette relation, étant donné que l'être humain a une propre histoire, une histoire culturelle, bouge à travers l'histoire. Et pour le moment, donc, avec le chapitre 2, c'est au fond la question, est-ce que ce qu'on appelle l'imitation, qui est au cœur de la pédagogie hellénistique, imiter quelqu'un, est-ce que c'est suffisant pour dire notre relation au Christ, imiter le Christ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est concerné dans notre intériorité, de manière très radicale? Et là, on touche évidemment la question du salut. Voilà, si vous voulez, un peu l'axe de notre parcours. Donc aujourd'hui, on termine le chapitre sur Augustin et Pélage, et on aura peut-être un peu le temps, je l'espère, d'aborder déjà la figure d'Anselme de Canterbury, qui est au seuil, au fond, d'une autre manière d'envisager la même question, le même type de rapport entre le Christ et nous. Alors, dans le premier chapitre, j'ai fait un parcours biblique assez large, en indiquant un peu les nouveautés aujourd'hui dans ce type d'approche. Je n'y reviens plus, mais ce parcours doit rester évidemment notre matrice, dans la mesure où la théologie se déploie à l'intérieur, dans les traces même de l'écriture sainte. Alors, le premier chapitre, vous avez un peu l'axe qui est indiqué à la page 37 de votre parcours, tout à fait en bas, se pose désormais la question du rapport entre le règne de Dieu, le travail de Dieu en l'homme, et le cœur humain en sa liberté. Ou la même chose en haut de la page 38. Donc la question du rapport entre le salut, entre la grâce, le pour nous du Christ, la gratia Christi, la grâce du Christ, et notre propre liberté. Voilà. Comment comprendre ce type de rapport? Je viens de le dire. Et nous avons vu d'abord quelques dates, je n'y reviens plus, et ensuite je vous ai proposé un long parcours sur la conversion d'Augustin, parce que je pense, c'est un peu l'hypothèse, si on veut comprendre ce qu'on appelle la crise pélagienne, qui relève de la dernière partie de la vie d'Augustin, il faut vraiment reparcourir l'ensemble de cette conversion, cette double conversion, le passage du manichéisme à la philosophie néoplatonicienne, qui est une conversion philosophique et éthique, faut lier les deux toujours, et ensuite, alors, la conversion décisive, la conversion proprement théologale, j'utilise ce terme très fort, les vertus théologales, la rencontre même de Dieu à travers le Christ, donc le passage de la philosophie néoplatonicienne au Christ en personne. Et la crise pélagienne révèle, en fait, donc ce débat avec Pélage, tout ce qui est impliqué, je dirais à la fois de positif et de très fort dans cette conversion, mais aussi les limites auxquelles nous avons déjà un peu touché, c'est-à-dire au fond la question du mal, avec une manière de comprendre ce qu'on appelle dès cette époque-là seulement le péché originel, et alors positivement cette insistance très radicale et très juste sur la gratuité, c'est-à-dire le salut est de l'ordre d'une gratuité absolue, du don gratuit de la grâce. Alors ça c'était le point 1, vous voyez les pages 38, 39, 40 et 41, et j'ai tenu ensuite à insister, nous allons mieux le comprendre encore dans la suite, sur ce qu'on appelle la paideia, grecque, voyez, qui est au cœur de la culture grecque. Une culture se caractérise, la culture hellénistique par exemple, se caractérise au fond par sa capacité de se transmettre. C'est d'ailleurs ce qui fait la crise de notre culture d'aujourd'hui. Sa capacité de se transmettre, et au fond les ministères de l'éducation, éducation c'est le terme latin, educatio de paideia, faire sortir, vous voyez, une deuxième fois, non pas uniquement du sein maternel, mais de faire entrer quelqu'un dans sa culture, cet acte de transmission est tout à fait décisif. Et le christianisme, à partir de cette époque-là, intégré dans l'Empire romain, montre sa capacité de s'inscrire réellement dans les processus d'éducation. Dans les processus d'éducation. Alors cette paideia, cette éducation, est fondée sur un schéma anthropologique de conversion et de transformation de l'être humain. Conversion et transformation de l'être humain. Vous voyez, avec la conversion d'Augustin, on revient un peu au modèle généalogique, hein, au cœur duquel, d'un point de vue anthropologique, il y a cette transformation, cette conversion. Et ce cheminement culturel, individuel et culturel, est évidemment sous-jacent à l'itinéraire d'Augustin et à celui de Pélage. Il caractérise la culture hellénistique et toute la culture occidentale depuis jusqu'à Feuerbach inclut l'essence du christianisme, vous rappelez de ce texte, et encore sans doute aujourd'hui. Avec les deux caractéristiques, c'est une culture, pourrait-on dire, ascétique, de combat, hein, askésis veut dire combat, ascèse, c'est-à-dire au cœur de cette culture, il y a une prise de conscience de la démesure de l'être humain, hein, à travers les divinités, Odyssée, Iliade, etc., qui sont une image, au fond, je dirais, des passions humaines en combat. Et donc, il s'agit de se battre avec soi-même pour accéder à la mesure, qui est la valeur fondamentale. Voilà quelqu'un qui est très mesuré. Nous disons ça encore aujourd'hui, dans ses jugements, dans sa manière d'être, voilà. Donc, l'ascèse pour la mesure, et l'ascèse est un travail de négativité, et évidemment à l'époque contre la sensibilité, contre les passions. C'est ça le seuil que l'anthropologie contemporaine va passer. Elle a une autre manière d'approcher le phénomène de la corporéité, la chair humaine. Donc ça c'est le premier élément, et l'autre élément, le détachement, la notion de détachement, qui viendra parfois dans la culture occidentale spirituelle, le terme « mortification ». Vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de très négatif, mais en principe, c'est plutôt le détachement comme condition de la liberté, travail de négativité, et l'ascension, l'image de l'ascension. Voilà. La montée vers la vision par la mimésis. Par la mimésis, c'est-à-dire, c'est le moteur essentiel, l'exemplarité d'un certain nombre de figures qui sont nos guides et qui nous conduisent donc vers la vision de Dieu. Alors, la tradition chrétienne va très rapidement, évidemment, à la fois adopter ce schéma fondamental et va le corriger. Et va le corriger, donc je vous ai donné ça à la page 42, notamment, si vous voulez, le tiret 2 et 3 du numéro 2, quatre éléments de correction. Le combat spirituel est très radical dans la tradition biblique. Quand vous pensez à l'épître aux Éphésiens, voyez toutes, ou à l'Apocalypse, les images, n'est-ce pas, le casque de la vérité, l'épée de la parole, on risque d'oublier cet élément de combat spirituel qui est beaucoup plus radical que simplement, c'est même pas d'abord un combat contre sa sensibilité. C'est quand même le discernement, je dirais, du mal, du démon, etc., qui est en jeu ici. Et surtout une capacité de discerner ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. D'où l'approche fortement psychologique chez, dans le récit de la conversion de saint Augustin. Et la deuxième chose, c'est l'image de Dieu qui est tout à fait différente. Donc c'est pas l'ascension qui est premier, mais c'est la descente de Dieu, l'incarnation, la miséricorde, la radicale bonté qui est première. Voilà, donc les deux éléments fondamentaux que la tradition chrétienne va donc inscrire dans cette culture anthropologique qui a un art de se transmettre à travers l'éducation, à travers la paideia. Alors, les deux figures maintenant, Pélage et Augustin. Et je rappelle le titre de ce chapitre. Pélage et Augustin, le salut comme éducation divine ou comme grâce infaillible. Vous voyez, c'est là où il y a le seuil qu'il faudra maintenant comprendre aujourd'hui entre les deux. Finalement, est-ce que cette correction de la paideia grecque est simplement une sorte de particularité chrétienne? La tradition chrétienne comme une paideia un peu spécifique avec un pédagogue particulier qui est le Christ. Donc ça c'est un peu la thèse de Clément d'Alexandrie. Ou est-ce qu'il y a une discontinuité ici qui va intervenir? Une mutation très radicale. Donc dans cette figure de descente que je viens de dessiner, voyez, la grâce infaillible. Voilà, vous voyez, c'est là où à la fois la question du rapport entre grâce et liberté entre le Christ et nous est impliquée, bien évidemment, mais est en même temps impliquée très radicalement la question, mais quelle anthropologie finalement, quelle conception de l'homme ici? Alors prenons d'abord la figure de Pélage. Je vais partir chaque fois, si vous voulez, procéder en trois temps. D'abord ce qu'on pourrait appeler l'axiome. Quand on reconstruit le raisonnement de quelqu'un, le raisonnement philosophique ou le raisonnement théologique, vous avez un peu un noyau principiel, vous voyez, qui est au point de départ, un axiome. Et ensuite, on va voir comment cet axiome, au fond, est mis en musique, si je puis dire, en histoire. Comment Pélage comprend-il l'histoire, finalement, du salut, l'oikonomie à l'histoire du salut. Et ensuite vient la grande question, troisième, finalement, la rédemption, notre rédemption, dans ce schéma, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et on va donc comparer, si vous voulez. Je crois que ça facilite un peu les choses. Et évidemment, je dirais, de faire cette opération est un peu hasardeuse, je le dis tout de suite, parce que nous connaissons les sources qu'à travers, finalement, Augustin. Donc, dans un combat entre deux adversaires. Et donc, nous risquons toujours, évidemment, de prendre Pélage pour Pélagianisme. Le Pélagianisme, c'est-à-dire ça de former un isme, évidemment, quelque chose à quoi on s'oppose. Alors, la figure de Pélage, je vais le suggérer à tel ou tel moment, est sans doute beaucoup plus nuancée que Augustin la présente, voyez. Alors, Pélage, premier point, l'axiome, introduit la doctrine de l'imitation dans l'anthropologie biblique. Et donc, ce qui est très intéressant, il faut d'abord retenir positivement aussi pour la suite, qu'il comprend l'image et ressemblance. Voyez cette célèbre affirmation du début de la Bible, dans la Genèse, récit de la création, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'une manière très dynamique. L'être créé à l'image de Dieu signifie rien d'autre que l'acte d'imiter Dieu. Et donc il y a cette sorte de capacité dans l'être humain qui le caractérise comme être créé. Là, vous avez aussi la jonction avec une anthropologie philosophique néoplatonicienne, la capacité d'imiter Dieu, voilà, de lui ressembler toujours davantage, et évidemment, alors distinction biblique, distinctif biblique, sans que la distance entre le créateur et la créature ne soit abolie. Et ici apparaît, je vais expliciter un peu ce premier axiome, ici apparaît d'abord quelque chose de très très fondamental qui va opposer Pélage à Augustin et qui va revenir d'une autre manière dans Gaudium et Spes au Concile Vatican II. Vous voyez, cette sorte de dialectique fondamentale pour le christianisme, j'appelle ça dialectique, vous allez comprendre pourquoi, car à la fois vous avez l'affirmation 1 Timothée 2,4, Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la création implique un universalisme radical de la grâce. Et le dessein de Dieu, si vous regardez les deux terreaux pauliniens, mais déjà l'Épître aux Romains, le chapitre 8, Éphésiens et Colossiens, le dessein de Dieu depuis les origines, affirment ces textes, c'est pas uniquement la création, mais une création accomplie. Une création accomplie. Donc la visée du salut, dès le départ, pour tous les êtres humains. Et en même temps, dialectique, qui s'affirme, je dirais, dans cette formule du Concile de Florence, 1431, par là, peu importe la date exacte, « extra ecclesiam nulla salus », « endelé hors de l'Église, point de salut ». Donc vous voyez une sorte de sélection ici qui apparaît, une prédestination, vous voyez le terme va venir maintenant, exclusive d'une certaine manière. Alors comment comprendre, vous voyez, cette tension? Et Pélage, il engage tout de suite son débat du côté, vous voyez, 1 Timothée 2,4. Il y a une corrélation entre la volonté salvifique de Dieu qui veut le salut de tous, d'un côté, et l'insistance sur la liberté de l'homme de parvenir effectivement à la ressemblance avec Dieu de l'autre. Voyez cette insistance sur le dessein universaliste de Dieu et la possibilité effective de l'homme de pouvoir parvenir au salut. La liberté de l'homme de se décider pour ou contre l'imitation de Dieu est finalement l'autre face de la volonté salvifique de Dieu, qui est vraiment universelle. Vous voyez, Deutéronome, je vous renvoie à ce que j'avais dit sur l'existence éthique selon l'Ancien Testament, la page 29 suivant, citer ce texte par Pierre dans sa première conversation avec le centurion dans Acte 10, Dieu est impartial. Dieu est impartial. Et la liberté des êtres humains, dans la pensée de Pélage, la liberté des êtres humains d'accéder effectivement à la salut, au salut, d'avoir cette liberté, est la trace de l'impartialité de Dieu. Si Dieu est impartial, il donne à tout être humain la possibilité d'accéder à la vie. Pour traduire salut, le bios, la vie éternelle. Voilà. Donc ça, si vous voulez, je dirais, c'est tout à fait décisif. Et vous avez la contre-épreuve, la polémique, qui est très intéressante et qu'il faut vraiment entendre chez Pélage, et que le deuxième concile d'Orange va d'ailleurs reprendre contre Augustin. Pélage s'insurge contre une manière de parler de la grâce qui réintroduit de fait le fatum païen, comme si la grâce, la prédestination, était une sorte de destin pour les uns et pas pour les autres. Oui, c'est magnifique ça. Saint Ignace, je le dis en passant, dans ses exercices spirituels, dans la 4e semaine, dans les règles pour sentir avec l'Église, reprend de nouveau, je dirais, quelque chose un peu de cette idée-là qu'il ne faut pas prendre la grâce comme prétexte, voyez, pour réintroduire d'une ou d'une autre manière une vision destinale en Dieu lui-même. Voyez, quelque chose de neutre, de l'ordre du neutre. D'une certaine manière, cette position se situe au niveau de la première conversion. Maintenant commencent à venir déjà un peu mes réserves d'Augustin. Voyez, quand Augustin parle d'une création ex nihilo, la création de tout son reste, et qu'il parle de la liberté créée de l'homme de se décider pour ou contre l'attachement de Dieu, on est au niveau de la sortie du manichéisme, parce que la sortie du manichéisme chez Augustin, c'est aussi une sortie d'une vision destinale de l'être humain, quelque chose de tragique finalement. Voilà, donc ce point est très très important. Et du coup, maintenant la formulation de l'axiome, je pense que vous l'avez compris, l'essentiel. Pélage va donc distinguer nettement à l'intérieur de la liberté humaine entre deux niveaux. Le premier niveau, c'est la capacité de vouloir librement qui appartient à la nature humaine en tant que telle. Le possé, le pouvoir, la potentia, la possibilité, voilà. La capacité de vouloir librement appartient à la nature humaine en tant que dignité ou honneur de l'homme. La dignité humaine, l'honneur de l'homme, c'est d'être créé par Dieu. Et donc d'avoir reçu cette liberté d'un Dieu impartial. Capacité gracieusement créée par Dieu. Gracieusement créé par Dieu. Donc vous voyez, la notion de grâce ici déjà, elle va d'une manière très juste, et Vatican II va aussi reprendre ça, se situer pour la première fois au niveau de la création, ce qui est le premier don. Le don originaire, le don le plus caché, parce que nous l'oublions au jour le jour, en vivant notre existence. Voilà. Ça, c'est le point central. La capacité de vouloir librement qui appartient à la nature humaine en tant que dignité ou honneur de l'homme, capacité créée gracieusement par Dieu. De cette capacité, deuxième niveau, il faut distinguer le vouloir effectif de l'homme, le velé, le vouloir, qui lui appartient radicalement en propre. Autrement dit, si je résume ce que je viens de dire, les deux niveaux, l'homme n'est pas libre quant à sa capacité au bien. Ça, il a reçu. Ça, vous voyez, ça c'est là. C'est de l'ordre de la création, de sa nature, ça fait partie de sa nature. Sa capacité de se décider. Mais le vouloir effectif, l'exécution, ça relève de sa propre liberté. Et voilà l'axiome de Pélage, à partir duquel, nous allons le voir tout de suite, deuxième point, il décode toute l'histoire biblique et lit l'écriture à partir de ce principe-là. On ne peut pas faire autrement d'ailleurs quand on lit les... Si on ne lit pas l'écriture de manière fondamentaliste, on le lit, je veux dire, avec une approche anthropologique. Et il y a une sorte d'articulation, une négociation entre les écritures. Je vous l'ai montré ça, je vous ai montré ça dans le premier chapitre. Et l'approche anthropologique. Il y a un va-et-vient. Alors, comment il fait ? À partir de cet axiome, Pélage propose une lecture de l'histoire du salut qui culmine dans son interprétation de la rédemption, ce sera le dernier point ici, et il distingue trois étapes. L'histoire du salut avant Moïse, ça permet de voir, je dirais, l'universalité avant Moïse. Ensuite, à partir de la loi de Moïse, sous la loi, et finalement, l'étape sous la loi du Christ. La loi du Christ, troisième étape et ultime étape. Alors, au point de départ de la première phase, il y a le péché d'Adam. Donc, la figure d'Adam, la figure biblique. Mais selon l'axiome, le péché d'Adam, vous voyez, c'est là-dessus va se greffer le débat avec Augustin, le péché d'Adam ne peut pas détruire la liberté, comme le montre d'ailleurs, dit Pélage, l'histoire des patriarches. Le péché d'Adam ne peut détruire la liberté. Donc la possibilité d'imiter librement Dieu reste chez Adam. La possibilité, Adam reste être créé malgré son péché, le péché d'Adam. Donc reste en lui le premier niveau, la possibilité de se décider pour ou contre Dieu. Et ça traverse toute l'histoire. Alors à partir de ça, les trois temps. Dans un premier temps, donc avant Moïse, c'est la loi intérieure de la raison qui protège l'homme contre le péché. Ça c'est, vous voyez, une sorte de reconstruction généalogique à partir de la situation actuelle. On remonte à cette phase avant la loi de Moïse. Et donc l'homme capable de se décider pour Dieu, qu'est-ce qui, à la suite d'Adam, va l'empêcher de faire comme Adam, c'est-à-dire il a à l'intérieur de lui-même une sorte de ressort, sa raison, son jugement, sa sagesse, pour se protéger contre les méfaits de la liberté. Mais quand après un certain temps, l'habitude du péché commence à obscurcir la raison humaine, je souligne le terme « habitude », vous rappelez, chez Augustin, il est extrêmement important. Chez lui, vous avez une analyse très fine de l'habitude. C'est une sorte d'addiction, comme on dirait aujourd'hui, en termes techniques. Quand l'habitude du péché commence à obscurcir ma capacité de juger raisonnablement, alors à ce moment-là, Dieu va intervenir et donner par Moïse la loi écrite. Et vous avez pour la première fois, vous voyez ce rapport entre intérieur et extérieur. La loi intérieure de la raison, qui n'arrive plus à se débrouiller tout seul, a quelque chose à l'extérieur, les tables de la loi, pour continuer quand même à se protéger contre le péché et avancer dans le discernement. C'est très 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 bien vu. Hein. C'est très très bien vu. Hein. Et alors, quand l'habitude pécheresse rend toujours plus profonde l'obscurité de la raison, voyez quand même on est dans une sorte d'histoire de la décréation ici, Dieu donne son propre fils comme exemple à imiter, exemple ultime et décisif. Voilà. Donc là, c'est la référence ultime. Dieu lui-même est la référence à travers son propre fils. Exemple à imiter. Vous voyez, on reste à l'intérieur de la païdéia grecque ici. Hein? On y reste à l'intérieur, même si c'est très très affiné, évidemment, parce que il y a ce magnifique rapport entre extérieur et intérieur, et qui est quand même présent. L'axiome continue à œuvrer dans l'explicitation de la rédemption. De la rédemption. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce schème, la rédemption, finalement? La croix du Christ, l'épître aux Galates, et le baptême sauve l'homme, et maintenant vient le point décisif, de ses péchés passés. Donc ça, c'est évidemment l'idée d'un baptême à l'âge adulte. Vous voyez comment on le retrouve de nouveau aujourd'hui dans nos catéchoménas. Donc il y a vraiment une césure très radicale, et on retrouve ici l'ascétisme d'une certaine manière de la figure de ce moine Pélage. Conversion. Donc le passé est annulé. Et ceci de manière absolument gratuite. Il n'y a pas de doute là-dessus. La donation de la création, la donation de la loi et la donation de la figure du Christ, comme exemple dans le baptême, le catéchuménat, est la gratuité, est gratuit. Mais le problème va se poser maintenant. Et ça, c'est un problème très actuel. Qu'est-ce qui va se passer après le baptême? Qu'est-ce qui se passe après le baptême? Pélage souligne ici à nouveau la liberté. La liberté. L'enjeu principal est une fois encore l'imitation du Christ, celle du Christ qui suscite par son exemple dans le baptisé le désir d'accéder à la sainteté parfaite. Quand je lis les Écritures au jour le jour et je m'imprègne de l'image du Christ, alors mon désir de vouloir devenir parfait comme lui, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, la fin du chapitre 5 de Matthieu, Sermon sur la montagne, alors, voilà, ça marche. Voilà, question, that's a question. Voilà, mais c'est la thèse de Pélage. De temps à autre, Pélage parle aussi, vous voyez, j'introduis ici les nuances, parce que c'est là où il faudrait entrer beaucoup dans les textes et faire une critique textuelle pour ne pas caricaturer non plus la position ici de Pélage. De temps à autre, Pélage parle de la faiblesse du chrétien et semble postuler la nécessité d'une grâce. J'ai choisi ma formule ici. La nécessité d'une grâce qui dépasse le rapport entre exemple et imitation. Est-ce que la grâce se réduit à ce rapport entre une figure à imiter quotidiennement et le désir intérieur? Qu'est-ce que devient la fragilité de l'être humain post-baptisme, après le baptême, Nous sommes tous ici concernés. Et il faut se rappeler aussi, vous voyez, dans l'Antiquité, ça c'est l'Épître aux Hébreux, il y avait encore une deuxième planche de salut, terme d'Augustin, c'est-à-dire la pénitence publique. La pénitence publique, deuxième planche. Mais on n'a pas l'idée de la confession régulière, vous voyez. Ça, c'est une pratique des moines irlandais, 8e, 9e siècle, et il faut attendre le 4e concile du Latran, 1215, que l'Église va radicalement réformer sa pratique pénitentielle, avec le risque d'annuler, finalement, la césure décisive qui est celle du qui est la césure du baptême. Vous voyez, quand vous pouvez répéter les choses à l'indéfini, et dans ma jeunesse j'ai encore connu ça, tous les 8 jours, ou tous les 4 semaines, vous voyez, on passait à la confesse, vous n'avez pas la conscience de cette césure radicale que représente le baptême. Donc il faut bien entendre ici cela. Et donc la question est quand même, qu'est-ce qu'on fait avec la faiblesse humaine, la fragilité humaine, c'est de nouveau la question dans le synode. Qu'est-ce que c'est finalement la pénitence? Et qu'est-ce que c'est le baptême? La pointe majeure de l'expérience et de la pensée de Pélage se situe ailleurs. Je l'ai mis ici en italique. La vraie grâce, c'est le Christ lui-même. La vraie grâce, c'est le Christ lui-même. Sa parole et son œuvre, sa droiture radicale et son amour jusqu'à la mort. L'imitation crée une vraie communion avec lui, mais il n'y a pas d'union mystique entre le disciple et lui. Ah, qu'est-ce qu'en fait cette formule paulinienne? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et du travail de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, voyez, vous avez un christianisme ici qui est réel, il ne faut pas nier ça, avec une conscience claire et nette de cette rupture qu'est le baptême. La grâce de la donation, de la création, de la loi, la grâce du baptême qui est la grâce du Christ lui-même, qui est lui. Lui est la grâce donnée par Dieu. Mais il y a quand même un problème. Il faut bien le reconnaître ici. Alors Augustin maintenant. Augustin, c'est à ce point ultime du raisonnement de Pélage que l'expérience d'Augustin, la conversion d'Augustin, qui n'est pas uniquement la sortie du manichéisme, mais la conversion théologale intervient. Et va donc orienter sa pensée, oui, je crois qu'il faut dire tout autrement. On passe sur un autre plan, sur un autre plan. Et cela, au nom de sa propre expérience de conversion, il doit s'opposer à l'axiome de Pélage. Et c'est là où apparaît une première distinction, ce qu'on peut appeler ici un nouvel axiome chez Augustin. Premièrement, l'imitation ne conduit jamais à l'amour, parce que la liberté humaine est malade. Alors, jusqu'où va la maladie? Ça, c'est une autre question. Là, je pense personnellement, il faut de nouveau prendre des distances par rapport à Augustin. Mais il faut d'abord reconnaître ça, que les débuts de l'action du Christ, je l'ai dit très nettement, quand j'ai retracé son itinéraire, première étape, c'est pas de se proposer à l'imitation, mais c'est de guérir. C'est de guérir. Luc 4. Voilà. Donc, quelque chose est malade dans l'être humain. Ce que Pélage dit la liberté humaine vaut pour l'état originel, dit Augustin, de l'homme créé par Dieu, mais ne vaut absolument pas pour la situation concrète et historique de l'homme après la chute. Alors après, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est cette chute? Et comment s'est introduit quelque part quand même, d'où vient le mal? C'est la question du manichéisme. Mais en tout cas, concrètement, notre existence est marquée par la lutte des deux volontés. Donc le début du récit de la conversion d'Augustin, marqué par la lutte de la loi de l'esprit et de la loi de la chair en nous, je renvoie de nouveau ici à Confession 8, et à un texte central qu'on va retrouver aussi dans la deuxième partie du Nouveau Testament, qui est au cœur de l'Épître aux Romains, le chapitre 7, versets 15 à 19, souvent cité par Augustin, effectivement, « Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. » Donc, tout d'un coup, c'est le péché qui devient le sujet de mes actions. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Alors bon, après on peut réfléchir sur l'extension, j'ai dit, de cette affirmation. Mais, j'ai dit, le point de départ ici, ce qu'on pourrait appeler la misère de l'être humain, la maladie de la volonté, la faiblesse, la fragilité radicale, et qui n'est pas uniquement une fragilité physique, mais qui est une fragilité intérieure. C'est ça le point de départ. La division intérieure, disent les pères de l'Église aussi. La division intérieure. La conséquence, le mal dans la volonté humaine, la division de celle-ci en l'homme, est trop profonde, voilà la thèse d'Augustin, pour que l'imitation et l'éducation puissent en arriver au bout. Voilà. Vous voyez, là, on décroche, ici, à cet endroit-là, avec l'Épître aux Romains, on décroche par rapport à la païdéia. L'éducation est nécessaire, je le dirai à la fin, n'est-ce pas? Et c'est vraiment la chose la plus importante dans une culture. La capacité, je le redis, d'une culture de se transmettre, ça passe par l'éducation. Donc c'est la chose qu'il faut le plus soigner, le plus. Donc on voit en même temps les misères qui se cachent là. Et les misères, et je dirais les difficultés, et les idéologisations qui se greffent là-dessus. Et en même temps, Le salut n'est pas au bout, la vie de l'homme n'est pas au bout de l'éducation. D'où la référence décisive maintenant, Romains 5, 5, donc qui est le versant positif maintenant de l'axiome, « Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Le début du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Le don de la grâce, l'infusion, l'inspiration, Augustin utilise les deux termes, l'inspiration, mais ce n'est pas uniquement l'inspiration, c'est l'infusion, au moment du baptême, de l'Esprit Saint. L'extérieur, c'est l'eau, évidemment, j'ai dit l'onction, etc. Mais l'essentiel, c'est la mutation du cœur humain ne peut venir que de la grâce de Dieu. Voyez la promesse, Jérémie, du cœur de chair, du cœur nouveau. Voilà. On revient à cette crise que je vous ai décrite à plusieurs reprises dans le premier chapitre. Aucun raisonnement, aucune exemplarité, aucune éducation ne peut sauver la volonté humaine. Car c'est sa corporéité qui est concernée ici, cœur de chair. Ce n'est pas uniquement la tête ou quelque chose de mental qui est en jeu. Ce n'est pas uniquement l'image qui est en jeu. C'est la chair humaine qui est ici concernée. Dans ce qu'Augustin appelle « remplacer les vieilles amies ». Voilà le nouvel axiome. Sur cette base, Augustin, deuxième temps, va relire l'histoire du salut. Et de nouveau, à partir du point d'arrivée, donc une relecture de la Bible, à partir des deux textes que je vous ai donnés ici, qui sont les textes de principe, à partir duquel, donc, il va relire l'ensemble. Puisque l'homme ne peut être sauvé sans rencontrer le Christ, baptême, maladie de sa volonté, il faut bien partir d'une certaine limitation à, voilà, on y est, une certaine limitation du cercle de ceux qui sont sauvés. Bien que, alors ça c'est tout à fait décisif chez Augustin, jusque dans son ecclésiologie, bien que la délimitation précise de ce cercle soit impossible. Parce que là intervient la parabole du bon grain et du mauvais grain et l'interdiction de juger. L'Église est un corpus per mixtum, un corps mélangé, voilà. Mais le cercle est limité, même si on ne peut pas dire comment, et d'où la terminologie réintroduit par le pape Benoît XVI, notamment dans certaines traductions, comme la traduction allemande des paroles d'institution pour la multitude. Alors les Allemands ont traduit pour les filen, c'est-à-dire on entend derrière filen multitude, mais on entend aussi tous, on entend davantage l'universel. Donc, la multitude. La multitude, le terme de multitude, dit, si on le comprend de manière juste, à la fois l'ouverture radicale, il y a quelque chose d'indéterminé, on ne peut pas déterminer le cercle, et en même temps, c'est un cercle, c'est-à-dire c'est limité. Augustin va davantage insister sur la prédestination et donc sur la limitation de ce cercle. La question de Pélage revient ici, évidemment, tout de suite. Cette restriction n'introduit-elle pas le destin des païens en Dieu? Dès lors, qu'en est-il de la justice de Dieu? Est-il vraiment un Dieu éthique, impartial, si le cercle est limité? Cette question déclenche alors une relecture de l'histoire du salut que Paul Ricoeur qualifie avec beaucoup d'intelligence de mythe rationalisé. Parce qu'il s'agit d'expliquer, voyez, d'argumenter tout en racontant. Donc, Augustin raconte de nouveau l'histoire du salut, mais il raconte cela avec un désir apologétique, pourrait-on dire, avec un projet apologétique, de défendre en même temps la justice de Dieu. Justice de Dieu. Et vous voyez qui introduit quand même, je veux dire, pour nous une difficulté ici, une difficulté. Alors, premièrement, dans trois points, pour faire cette triple argument, Dieu est juste comme créateur d'un homme libre, capable de se décider pour ou contre Dieu. Donc là, il y a la jonction avec Pélage et la citation d'1 Timothée 2:4, la volonté salvifique universelle de Dieu. Voilà. Première étape. Deuxième élément, cette thèse, donc qui est liée à la théologie de la création, qui est liée à la première conversion, la sortie du manichéisme, implique que toute la responsabilité du mal incombe à l'homme. Et on voit bien dans le récit de la Genèse, c'est André Vénin, Paul Bouchon qui ont montré ça, Adolphe Guéchet, si vous regardez un peu ses auteurs, ils ont montré que l'auteur de la Genèse tente continuellement de déculpabiliser Dieu par rapport à ce qui arrive. Parce que le Dieu de la Genèse est surpris, il vient sur la terre et découvre tout un coup ce que l'homme est en train de faire, vous voyez, c'est magnifique d'ailleurs. Donc il y a cette tentative de déculpabiliser Dieu par rapport au mal. Et alors Augustin va beaucoup plus loin, le mal c'est de l'ordre de la responsabilité humaine. Le mal n'étant plus une substance justement, comme dans le manichéisme. Vous rappelez de ça. Il y a donc une correspondance chez Augustin entre le péché et la peine. Donc j'ai déjà développé ça. Le péché et la peine. Au fond, le mal, souffrance, et le mal-malheur qui nous arrive, est expliqué par une immense chaîne de causalité invisible, si je puis dire, parce que l'homme a détérioré lui-même et la création, au fond, ça lui retombe dessus. Voyez, ça lui retombe dessus. Donc cette équivalence entre péché et peine. Mais la question de la justice rebondit. Comment justifier alors que toute souffrance, aussi injustement répartie, aussi excessive qu'elle soit, puisse être une rétribution du péché de l'homme? Comment justifier la maladie généralisée de la volonté inscrite jusque dans le corps humain? N'y aurait-il pas quand même un défaut de fabrication quelque part? Vous voyez, on renvoie la machine à laver chez l'expéditeur parce que, je veux dire, le chrono ne marche pas ou l'ordinateur. C'est quand même une vraie question. C'est une vraie question. Alors, comment va-t-il s'en sortir, Augustin? Il faut d'abord l'honorer, parce que, évidemment, il pose les questions. C'est ça qui est remarquable, d'abord. Mais, évidemment, il tente de répondre. L'interprétation d'Augustin, de Genèse 3, va intervenir ici. Et on va la reprendre avec le texte biblique dans la deuxième partie du cours, et avec Romains 5, 12 à 19. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et maintenant vient un problème de traduction, et notre ami, pardonnez-moi cette familiarité, Augustin, prend ici la traduction de la Vulgate parce qu'il ne connaît pas la traduction grecque du texte. Si vous regardez dans votre tome des éditions plus anciennes, vous avez une très 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 bonne explication de ça dans une note, où on vous donne les différentes traductions du texte grec. Alors, je vous donne celle que Augustin connaît, et vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc, je relis. « Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, alors la traduction littérale grecque, ça est, point virgule, d'ailleurs tous ont péché. Mais la Vulgate établit ici une causalité, que j'appelle causalité adamique. Qu'ainsi la mort atteint tous les hommes, par celui en qui tous les hommes ont péché. Par celui en qui tous les hommes ont péché. Pour Augustin, la seule manière de justifier la justice de Dieu est le péché d'origine. En lui, tous ont péché. Le péché originel. Voilà. Ce qui veut dire que le péché a une dimension supra-individuelle, historique et générique. Et vous voyez, quelque chose de destinal revient ici, en galop, si je puis dire. Le péché, alors ça c'est bien vu, le péché n'est pas uniquement une affaire individuelle. Ça c'est contre tout individualisme. Le mal que je fais a des effets sociaux, évidemment. Structure de péché, on appelle ça comme ça, aujourd'hui on va y revenir, c'est clair. Donc ça, il faut le tenir. Mais est-ce qu'on peut réduire tout le mal qui existe au péché de quelques-uns ou de tous et d'Adam? C'est quand même une vraie question. Vous voyez, il y a deux niveaux qui sont liés ici entre eux. À la fois l'imputation personnelle du péché d'Adam à chacun, à tous, en lui tous ont péché, et ensuite quelque chose de proprement augustinien, c'est l'idée de la transmission biologique, où nous trouvons l'anthropologie augustinienne de la corporéité. Comment le péché originel nous est transmis? Et par la transmission sexuelle, biologique, par l'engendrement. Voilà. D'où d'ailleurs la nécessité du baptême des enfants, le plus rapidement possible. Tous les rites de purification des mères que nous avons connus, etc., etc. La liturgie a bien sûr enregistré ça. On pourrait même dire que la liturgie est première avant la théorisation d'Augustin. La transmission biologique. La volonté divisée et malade s'inscrive dans la corporéité de l'homme et dans sa sexualité. Les vieilles amies, appelées à se dépasser dans l'ascension vers l'esprit et la contemplation. Alors je ne vais pas vous lire maintenant les numéros. Vous avez le De Trinitate, le texte, le livre 13. Je vous ai donné un des derniers extraits de texte d'Augustin où vous avez ce que je viens de dire dans le numéro 16 et le numéro 23. Alors, que devient finalement la rédemption dans cette explicitation historique, ce mythe explicatif, vous voyez, et la limitation? Donc, Dieu est juste jusqu'au bout, maintient Augustin. Puisque tous ont péché en Adam, personne n'a droit au salut. Tous ont péché en Adam. En Adam, Adam qui nous a transmis ce péché, personne n'a droit au salut. On n'est plus dans l'ordre d'un échange. Si Dieu livre la plupart à la condamnation, il n'est que juste. S'il sauve certains, il montre sa miséricorde infinie. D'ailleurs, sa miséricorde par rapport aux uns ne se fait pas au détriment de la justice rendue aux autres. D'ailleurs, comment magnifier la miséricorde si elle ne s'affirme pas devant l'horizon de la justice? Voilà, on commence un peu à trembler, c'est pour ça que j'ai mis un point d'exclamation ici. Même la condamnation juste des uns sert encore la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà, donc on peut... Je crois qu'on est en droit de prendre ses distances ici, à cet endroit-là. Donc, vous voyez. Alors, si vous regardez, on va le faire un tout petit peu au numéro 19 et 21. Donc, qu'est-ce que c'est la rédemption? Alors, si vous regardez un peu le numéro 19, donc on est dans l'annexe que vous avez, on va le trouver. Donc l'annexe 6, donc à partir de la page 161 de votre polycopier, et on va regarder le numéro 19. Il n'est donc pas difficile de voir que le démon invaincu, donc là on est vraiment dans la théologie de la rédemption, une fois ressuscité celui qui l'a mis à mort. Donc le démon a mis à mort le Rédempteur. C'est une chose plus grande, un mystère plus profond à saisir, de voir que le démon fut vaincu alors qu'il croyait être vainqueur, c'est-à-dire au moment où le Christ fut mis à mort. Car c'est alors que ce sang, parce que c'était le sang de celui qui n'avait absolument aucun péché, donc vous voyez qui ne relève pas du péché originel, voilà, qui ne relève pas de la descendance, voyez, d'Adam, même s'il est fils d'Adam, mais il y a la conception virginale qui intervient ici, déjà chez saint Augustin, voyez, celui qui n'avait absolument aucun péché a été répandu, la sonde de celui-là, pour la rémission de nos péchés, de la sorte ceux que le démon, en toute justice, tenait enchaînés dans une condition de mort, parce qu'ils étaient coupables de péché, il devait les libérer en toute justice, par le mérite de celui auquel bien qu'innocent de tout péché, il avait injustement fait subir la peine de mort. C'est par cette justice que le fort a été vaincu, par ce lien qu'il a été enchaîné, afin que lui fussent ravis ceux qui, auprès de lui, avec lui et ses anges, étaient vases de colère et qu'ils devinssent vases de miséricorde. Ou tout à fait en bas, un peu plus loin, dans cette rédemption, le sang du Christ a été donné pour nous comme prix du rachat. En le recevant, le démon n'a pas été enrichi, mais enchaîné, en sorte que nous soyons libérés de ses liens et qu'il n'entraîne pas avec lui dans la ruine d'une seconde mort, une mort éternelle, enveloppée dans les raies du péché. Aucun de ceux que le Christ exempte de toute dette, aucun de ceux, donc vous voyez la multitude, mais on sent qu'il y a la limitation, n'est-ce pas ? Aucun de ceux que le Christ exempt de toute dette a racheté de son sang gratuitement versé, à condition toutefois qu'il meure dans la grâce du Christ, gratia Christi, connu, prédestiné et élu avant la constitution du monde, mourant comme le Christ est mort pour eux d'une mort de la chair et non de l'esprit. Voilà, si vous voulez, je dirais, cette théologie de la rédemption. Donc vous voyez, quand vous regardez un tout petit peu, c'est le deuxième tiret, il s'agit de restituer la sotériologie d'Augustin dans le cadre de la thématique biblique. Donc corrigez bien, c'est la page 27 de votre dossier. J'ai commencé par là le premier chapitre. Donc c'est la page 28, vous voyez le résultat, c'est le troisième point où vous avez la théologie du rachat et du mérite qui est développée ici. Donc c'est une reprise traditionnelle, il faut le dire, de la théologie de la rédemption des pères, théorie qu'on peut caractériser de manière suivante, parce qu'il y a une pluralité de modèles, je le redis, dans l'Écriture, une théorie d'une victoire juste du Christ sur le démon. Voilà, ça c'est la rédemption. La victoire juste du Christ sur celui qui tient en captivité les êtres humains. Intégrée, alors cette doctrine est intégrée dans la doctrine de la prédestination. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez, dans le numéro 19 et dans le numéro 21, vous le voyez. Donc c'est une histoire globale du salut, une doctrine de la prédestination qui doit répondre à la question de la justice de Dieu à travers la figure d'Adam. Et finalement, le Christ qui ne relève pas de la figure d'Adam, même s'il est fils d'Adam, il est un nouvel Adam, et qui introduit donc le mérite, la justice, et qui libère donc l'être humain. Mais Mais encore une fois, il faut bénéficier du baptême. Il faut bénéficier du baptême, c'est-à-dire de la grâce absolue du Christ. Seule la grâce du Christ peut arriver au bout de notre volonté malade. Seule la grâce du Christ peut venir au bout de notre volonté malade. Voilà, si vous voulez, on va faire la pause. J'espère que vous avez bien suivi cette comparaison. J'ai essayé de la rendre la plus accessible possible. Je vous invite à lire les textes. Évidemment, viendra maintenant encore pendant une dizaine de minutes un petit débat critique pour voir comment nous, on va se situer, je dirais, par rapport à ces deux figures. Un discernement qu'il faut quand même, un discernement théologique qu'il faut proposer ici. Juste un petit mot avant d'arriver à l'évaluation critique, le débat critique. Vous avez à la page 45 un dernier point là, c'est le 16e concile de Carthage 418 et le 2e concile d'Orange 529. Vous voyez ce débat entre Augustin d'un côté et Pélage a duré, et il y a eu donc deux décisions collectives, synodales, conciliaires, après débat. Donc premier à Carthage, Tunisie actuelle, 418, vous avez le texte à la page 166 de votre dossier, avec un petit chapeau historique. J'ai pris ici une traduction qui existe dans un petit ouvrage qui a cette introduction. Mais je voulais vous donner quand même un peu les canons. Canon veut dire règle. Vous voyez, les canons de ce concile, vous allez les regarder un tout petit peu. Donc celui d'abord de Carthage. Il a été décidé par tous les évêques rassemblés au Saint-Synode de Carthage que... Et ensuite, vous voyez, on reprend les points presque que j'ai développés, là, sous forme de thèse. Parce que ça veut dire aussi que les communautés chrétiennes étaient concernées par cela, et on va bien. Et alors, ça a été repris parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le sémi-pélagianisme dans la France du Sud, c'est-à-dire à Arles et à Orange, donc le concile d'Orange, présidé par Césaire d'Arles, évêque d'Arles, en 529, dans la Provence chrétienne, petite chrétienté de l'époque. Et là, le texte est extrêmement intéressant parce qu'il est très équilibré. Vous allez regarder ce texte parce que à la fois c'est d'inspiration augustinienne, donc c'est vraiment un texte qui souligne la grâce jusqu'au bout, avec les terminologies infusion, inspiration, donc la citation de l'Épître aux Romains, le chapitre 5 que je vous ai donné, c'est très biblique, vous allez voir. Donc on sent ici des évêques qui sont des prédicateurs et qui utilisent l'Écriture pour expliquer les choses. Mais vous avez aussi cette formule absolument étonnante, et voyez, qui soulève bien le problème. Donc, dernière partie de ce texte, ce que la tradition enseigne sur la prédestination. Nous croyons aussi, selon la foi catholique, qu'après avoir reçu la grâce par le baptême, tous les baptisés peuvent et doivent accomplir, avec l'aide de la coopération du Christ. Ah, voyez, le terme coopération n'est pas utilisé ici comme au Concile de Trente, c'est-à-dire nous, coopérons, mais c'est le Christ, n'est-ce pas, qui faut le prendre au sens le plus fort du terme ici. Voilà. Tout ce qui concerne le salut de leur âme, s'ils veulent fidèlement y travailler, non seulement nous ne croyons pas que certains hommes soient prédestinés au mal par la puissance divine, mais s'il était des gens qui veuillent croire une telle horreur, un concile qui parle ici, nous les condamnons avec toute notre réprobation. Donc, ça ne veut pas dire que le problème soit résolu. Vous voyez bien. Mais en même temps, il y a une sorte de conscience ici, un bon sens chrétien, un sensus fidelium qui dit nettement, non, je veux dire, on ne peut pas confondre la grâce, parler de la grâce de cette manière-là, sans respecter quelque part à la fois la justice de Dieu et la justice, la liberté de l'être humain. Mais rien n'est résolu, parce qu'on est dans un paradoxe ici, on va le voir bientôt. Alors, le débat critique. Donc, trois points d'évaluation. D'abord, le rapport, premier point, le rapport entre la grâce et l'œuvre du Christ. Donc, le rapport entre la théologie de la grâce du Christ, qui est première chez Augustin, et donc la grâce que nous recevons, et la théologie de la rédemption, donc l'œuvre du Christ. Augustin, je crois, peut dire ça, a raison. Donc d'abord, je souligne vraiment le positif. Il a raison de souligner l'expérience de la division de la volonté humaine. C'est-à-dire, il prend simplement au sérieux la menace que la faute fait peser sur le sujet. La faute, en tant qu'elle trouve, c'est ça qui est intéressant, une complicité profonde dans la fragilité et la division interne de l'homme. Donc, on ne peut pas confondre fragilité de l'être humain et faute. Mais le propre de la faute, c'est de se greffer précisément sur ce qui est fragile dans l'être humain. Donc ça, Augustin vraiment le prend tout à fait au sérieux. Donc c'est la référence à Romains 7 que je vous ai donnée, lue tout à l'heure. Voilà. Alors, je pense aussi, deuxième élément d'évaluation, positif, s'il est difficile de tenir ce qu'Augustin dit du péché originel. Voyez les deux niveaux qu'il se mélange ici, la théorie, la théorisation qu'il propose, c'est clair. Le mystère que vise cette terminologie est ce que Ricoeur a appelé un mythe rationalisé, la tentative d'expliquer quelque chose. Mais le mystère qui est visé par là, je crois qu'il faut le confesser. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Quelle est la partie vraie qu'il faut entendre encore aujourd'hui? La réalité du péché dépasse la responsabilité individuelle et la précède déjà. C'est la formulation que je propose. Dans la mesure où l'existence corporelle des individus, et nous disons aujourd'hui, de manière plus précise, leur existence historique et culturelle est déjà marquée par une division interne des volontés humaines qui précède toute responsabilité individuelle. Quand nous naissons, vous voyez, nous naissons dans une culture qui n'est pas neutre, qui est déjà marquée par les préjugés culturels de mon milieu, de ce qui est politiquement correct, là où je vis, les inconsciences, vous voyez, tous ces aveuglements qui traversent une société donnée et qui se transmettent, évidemment. Donc, on n'est pas dans une situation neutre. En ce sens-là, le terme péché, je l'expliquerai davantage dans la deuxième partie, est très mal choisi de parler d'un péché originel, parce que le péché, c'est quelque chose d'individuel pour nous. Et donc, on ne peut pas parler du péché collectif en ce sens. La Bible parle du péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, ça veut dire, on vit dans une culture où la séduction négative existe déjà. Elle peut être contrariée par une séduction positive, évidemment. Saint Augustin a aussi raison quand il affirme qu'on ne peut réduire l'œuvre de la rédemption à la fonction d'exemple du Christ, mais qu'il faut, entre guillemets, ne faut-il pas, ne fallait-il pas, une grâce infailliblement créatrice et recréatrice. Revêtir le Christ. Alors, il cite cette formule magnifique. Être baptisé, c'est revêtir le Christ, dans la mesure où le vêtement, c'est pas quelque chose d'extérieur, voyez. C'est pas uniquement imiter. Alors, maintenant, la difficulté. Ça, c'est, je crois, que ce qu'il faut vraiment entendre dans ce débat. La difficulté, on ne peut pas identifier grâce et prédestination restrictive. Je pense qu'il faut questionner aujourd'hui cette thèse du point de vue biblique et du point de vue du destin païen à dépasser Pélage l'a vu. Alors, ici, je dirais, il y a un travail de discernement difficile à faire et que j'amorce ici et que je vais un peu poursuivre dans la suite jusqu'à la fin de cette partie. Augustin introduit la théologie de l'œuvre rédemptrice du Christ, qu'il emprunte au Père de l'Église, dans sa théologie de la grâce, sans donner à cette œuvre du Christ une fonction véritablement structurante, me semble-t-il. On peut au moins, je dirais, avoir cette hypothèse un peu dans la tête. On pourrait se demander, même si c'est une fausse alternative, parce que c'est circulaire, qu'est-ce qui est premier dans la relation du « pour nous » ? Est-ce que ce qui est premier, c'est l'expérience de ma misère humaine, ou est-ce que c'est l'œuvre du Christ ? Voyez, qu'est-ce qui est premier dans l'expérience chrétienne ? Est-ce que c'est la rencontre du Christ qui est premier et qui me fait découvrir que je suis, comme on dit maintenant souvent dans les rites pénitentiels, que je suis pécheur, pécheur pardonné ? C'est-à-dire au moment où je découvre que ma propre misère de pécheur, en rencontrant le Christ, je découvre qu'elle est déjà enlevée. Qu'est-ce qui est premier ? Et on a l'impression que chez Augustin, ce qui est premier, c'est l'expérience de la misère qui est premier. Voyez, c'est ça que je veux dire. Là, il y a un problème, une question très fondamentale. Qu'est-ce que c'est finalement la rencontre du Christ, d'un point de vue humain ? Comment elle introduit ? Alors, le jansénisme, dans la tradition catholique, évidemment, vous voyez, il introduit des choses davantage par la misère. Par la misère. Même chez Pascal, on a ça. Donc, ça, c'est quand même une sérieuse question. Et du coup, je dis, ce qui est derrière, au point de départ, est quand même l'idée, chez Augustin, c'est la toute première conversion d'Ostensius, vous voyez. C'est-à-dire la visée, la visée, la visée. La question se situe probablement, vous voyez, si on poursuit un peu cette hypothèse, c'est une question d'accentuation, vous voyez, qu'est-ce qu'on accentue dans ce cercle relationnel entre le Christ et nous, où le Christ est toujours premier. Voilà. Le but de la vie humaine trouvé dans les écrits philosophiques. Vous rappelez cette thèse dans les Confessions, le livre 8. Pour Augustin, c'est ça qui est premier. Il a d'abord découvert le but. Et ensuite, il a découvert dans les écrits chrétiens le chemin. Le chemin d'humilité. Et c'est le chemin que Dieu lui-même a pris vers nous. Donc, le cadre néoplatonicien de l'expérience augustinienne précède le remplissage concret par l'œuvre du Christ, accueilli évidemment dans l'expérience infaillible de la grâce. La connaissance du but semble, je suis prudent, précéder l'itinéraire emprunté par le chrétien converti au Christ. Cette voie transforme-t-elle, voilà, je reformule ma question d'une autre manière. Cette voie de Dieu qui vient par la grâce, cette voie transforme-t-elle réellement le but ? L'œuvre du Christ influe-t-elle sur le cadre de son œuvre ? Et voyez, dès que je dis cadre, revient tout de suite la question de la prédestination, voilà. on a l'impression qu'il y a quelque chose là qui résiste, voyez, et qui n'est pas converti, vous voyez, finalement, qui n'est pas réellement converti. La théologie de la prédestination et son corollaire, la théologie du péché originel, sont au moins partiellement à mettre sur le compte du cadre. Au moins partiellement. Quand je dis partiellement, je redis qu'il faut réentendre réellement qu'il ne s'agit pas dans notre péché humain, dans notre misère, uniquement quelque chose d'individuel, mais quelque chose de collectif, infiniment plus large, plus culturel. Alors, derrière, il y a une question plus fondamentale encore. Vous voyez, c'est vraiment un discernement difficile, hein, d'un point de vue théologique. C'est au fond l'approche biblique. Augustin ne part pas de l'itinéraire de Jésus, mais il part de la thématique multiforme des théologies néo-testamentaires et qui sont effectivement plus aisément à mettre en relation avec la philosophie néo-platonicienne par les concepts intermédiaires de logos et de sagesse, comme but de l'itinéraire humain. Comme but de l'itinéraire humain. Enlevez le « e ». Et derrière, vous avez évidemment, je dirais, un texte central, c'est l'hymne aux Éphésiens, que j'avais déjà un peu commenté. Je renvoie de nouveau à la thématique initiale qui est au début du premier chapitre de la première partie. « Il nous a prédestinés ». Qui est ce « nous », vous voyez, à être pour lui des fils adoptifs en Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés, en lui nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous avons à toute sagesse et intelligence. Vous voyez, toute sagesse et toute intelligence, c'est déjà l'Hortensius qui l'a découvert en premier. Ça, c'est le cadre, ce qu'il a vu chez les philosophes. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre. Donc vous avez ici ce que j'ai appelé le cadre. Vous voyez, le cadre global de toute l'histoire du salut avec les différentes étapes. Avec le point de départ, la bienveillance, l'idée de prédestination, bien sûr, et l'accomplissement, le salut et la récapitulation du tout, c'est-à-dire de la création et du ciel et de la terre. Et donc ce cadre-là, quand Augustin découvre la voie du Christ, la rédemption du Christ, ce cadre-là est déjà acquis, au moins dans ses extrêmes, ce qu'il a découvert chez les philosophes, comme il dit, en sortant du manichéisme. Donc cet hymne est au fond la récapitulation de toute la thématique du salut avec les termes clés, prédestination, le Fils, les fils, le sang, délivré, pardonné et finalement sagesse, intelligence et univers. Comment situer à l'intérieur de ce cadre-là l'œuvre même du Christ ? Alors, Augustin aborde l'œuvre du Christ à partir du cadre. Est-ce que l'œuvre du Christ, telle que nous le lisons dans les synoptiques et dans l'évangile de Jean, l'itinéraire du Christ, tel que j'ai essayé de vous le raconter à travers les différentes étapes, est-ce qu'il va influer sur le cadre et nous aider à interpréter ce que veut dire finalement prédestination ? Est-ce que cette prédestination est sélective ? Est-ce qu'elle est globale ? Est-ce que nous pouvons dire quelque chose là-dessus ? Vous voyez, Augustin, il est quand même net. Il dit, elle est limitée, c'est le propre de la prédestination, selon lui. Elle est sélective, mais il ne dit pas, évidemment, heureusement, qui est prédestiné et qui ne l'est pas. Voilà, donc la question est finalement là. Dans une lecture à rebours, Quand on a devant soi, je dirais, le récit de la conversion et toute la théologie d'Augustin, le but est au point de départ de la conversion d'Augustin. C'est-à-dire, il comprend la sagesse et l'intelligence. Si on veut comprendre la sagesse et l'intelligence à partir de l'itinéraire de Jésus avec ses disciples, avec le peuple et les adversaires, que devient ce cadre? Que devient ce cadre qui est prédéterminé chez Augustin? Faut-il comprendre l'œuvre du Christ à partir de la sagesse et l'idée de prédestination et de providence ou inversement, voyez. Donc là, il y a une question de fond qui traverse toute la théologie occidentale jusqu'à nos jours. Cette question. Comment articuler l'œuvre historique du Christ, son itinéraire, et alors ce cadre d'interprétation, parce qu'évidemment, l'œuvre du Christ ne peut être interprétée que si nous le mettons en lien avec celui que nous appelons Dieu. Donc avec la question de la grâce et de la gratuité. Voilà, vous voyez un peu un premier problème, vous voyez, qui apparaît ici dans la lecture de ces auteurs. Alors ensuite, la critique du cadre anthropologique. La théologie de la création chez Augustin, c'est la deuxième évaluation, conduit à attribuer le mal uniquement à la responsabilité humaine, ce qu'on appelle le péché, et à comprendre toute souffrance comme punition. Or, pour justifier l'excès du mal qui dépasse la responsabilité humaine, il faut donner au péché une dimension supra-individuelle, donc la référence à Romains 5, 12. Donc, je rappelle cette thèse d'Augustin à partir de la traduction de la Vulgate. Mais la traduction de la Vulgate est intenable. Mais il faut le dire. Les exégètes le disent depuis 1950. Il faut le dire. C'est le père Lyonnais, le premier, qui a fait un article décisif sur cette question. Vous le trouverez dans la bibliographie. Alors, il y a une décision théologique ici à prendre. Et ça concerne maintenant le cadre global. D'abord, le rapport de l'œuvre du Christ au cadre global, création, prédestination, etc. Et maintenant, le cadre lui-même. Il y a une décision à prendre, et qui consiste à ne pas étouffer la protestation contre la souffrance injuste. Job, de ne pas l'étouffer, alors qu'elle est étouffée, à mon avis, quand même, chez Augustin. Pélage ne la connaît simplement pas, cette protestation. Donc là, il est beaucoup trop optimiste. Augustin la condamne quand même au silence d'une certaine manière par son mythe rationalisé qui tente immédiatement de défendre la justice de Dieu. Si on défend immédiatement la justice de Dieu, on n'entend pas la question qui est celle-ci, le mal-malheur ne peut pas être réduit au mal moral. Le mal-malheur ne peut pas être réduit au mal moral et au mal souffrance, vous voyez, il y a quelque chose de plus radical. Un tsunami pose la question de la théodicée. Donc il y a un risque ici de la théologie de systématiser logiquement l'anthropologie théologique et la sétériologie de telle manière que le drame de la liberté humaine et de la souffrance soit réduite. Ça, c'est le deuxième élément de débat. Vous voyez, je l'ai un peu provoqué en reconstruisant les deux pensées de Pélage et d'Augustin à travers cette idée d'un axiome. Alors, quand on regarde maintenant les œuvres elles-mêmes des auteurs, vous allez voir, si vous prenez un peu le temps de lire Augustin, vous allez voir quand même, je dirais, la question du malheur advient. Mais la tendance globale, c'est quand même de faire plutôt taire cette question dans une apologie de la justice de Dieu qui conduit finalement à dépénaliser Dieu et d'écrire une histoire pénale humaine où tout, en dernière instance, est quand même la faute à la fois de l'être humain individuel et la faute dire adamique, c'est-à-dire du collectif humain. Alors, troisième et dernier point d'évaluation, qu'en est-il dès lors de la paideia de l'éducation basée sur l'imitation? Là, on touche maintenant, voilà, la question culturelle. Pélage la reprend en la corrigeant. Saint Augustin la critique radicalement dans la mesure où le salut ne peut être le fruit d'une simple imitation ou d'une éducation, mais de la seule grâce infaillible. Voilà, ça c'est clair. Alors, deux questions théologiques apparaissent ici. Selon moi, tout de suite, premièrement, on ne peut pas renoncer à l'idée d'imitation. Il faut bien le dire. La première lettre aux Thessaloniciens est basée là-dessus. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. L'imitatio Christi, 15e siècle, Thomas à Kempis. Il y a toute une spiritualité de l'imitation. Et l'imitation est un ressort tout à fait fondamental de l'éducation. Le problème est ici d'indiquer de manière précise la limite de l'éducation. Et ça, c'est très important pour les parents, d'ailleurs, de savoir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas, ce qui relève de l'éducation et ce qui ne peut pas en relever dans la transmission de la foi et plus largement dans l'éducation d'un enfant et d'un jeune. La conversion se prépare, mais elle est radicalement du début jusqu'à la fin. Alors ça, c'est le deuxième concile d'Orange, 520-29. Du début jusqu'à la fin, une œuvre de la grâce de l'Esprit. Alors on peut ici donner quelques belles indications. On peut comprendre le péché d'Adam et le péché d'Ève comme péché d'imitation. Devenir comme Dieu. Voilà. On peut comprendre ça comme ça. Et le travail d'éducation des prophètes, pensez à la quatrième prière eucharistique qui retrace ça magnifiquement, échoue. Voilà, le travail d'éducation des prophètes échoue. C'est alors que la réforme deutéronomiste annonce précisément une nouvelle alliance et qui ne relève plus de l'éducation. Alors le deutéronomiste est un théologien ou des théologiens de l'éducation divine. Mais la nouvelle création, le cœur nouveau, ne relève plus de l'éducation. C'est une création, une recréation. Ils n'auront plus à s'instruire mutuellement, Jérémie 31, se disant à l'un à l'autre, « Ayez la connaissance de Dieu, je vais te dire qui est Dieu, je vais t'éduquer, mais ils me connaîtront tous du plus petit au plus grand, parce que je vais leur pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Ah, ça c'est prodigieux. Quelle utopie, si on garde ça d'un point de vue humain. Donc en dernière instance, tout être humain dans sa singularité absolue, et c'est les petits qui sont nommés ici, sont en rapport direct, immédiat avec Dieu. L'éducation des disciples par Jésus arrive également à un point de crise, parce que Jésus éduque ses disciples quand ils le suivent. C'est la crise galiléenne dont je vous ai parlé, qui se solde par la crucifixion de Jésus. Saint Jean loge ici la parole de Jésus. « C'est bien pour vous que je m'en aille, pour que l'autre paraclet, l'Esprit, puisse venir. » La disparition de l'éducateur, qu'est le Christ, parce que d'autres choses plus radicales doivent se passer. Voilà maintenant la thèse. Il faut donc une éducation basée sur l'imitation pour que se prépare le moment où l'image et l'éducateur disparaissent, et que le sujet surgisse dans sa liberté face à la liberté de Dieu, dans une immédiateté chaque fois unique. La théologie de la grâce n'exclut pas la pédagogie humaine et divine, mais l'intègre et la limite. Saint Augustin en a tiré grand profit dans ses confessions de cette éducation, mais il y a la limite radicale. C'est la réserve de fond par rapport à René Girard qui, immédiatement, identifie imitation et violence. Et je ne crois pas qu'on a le droit de faire ça d'un point de vue anthropologique. Alors la question qui reste ici, quel type d'éducation aujourd'hui? Quel type de... C'est ça finalement que nous lègue cette culture et ce débat entre Pélage et Augustin. Alors, on peut exprimer des réserves par rapport au schéma théorique et spirituel du néoplatonicisme, du néoplatonisme. Vous voyez ce que j'ai appelé tout à l'heure l'ascèse, le détachement et le modèle d'ascension, vous voyez, qui a un risque plus ou moins latent de conduire vers un mépris larvé du corps. Donc il faut corriger ce schéma. Mais on peut poser aussi la question encore d'une autre manière. Et si Augustin avait lu dans le jardin un autre texte biblique au moment de sa conversion? Voyez, si on prend ça au sérieux, s'il avait lu ici Luc, la scène avec Marthe et Marie, par exemple, ça introduit tout à fait, c'est aussi un texte de grâce absolument extraordinaire, mais ça introduit un autre schématisme relationnel, une autre manière de parler de la grâce. La femme de l'onction du corps de Jésus, Luc 7, ou l'Apocalypse 3, vous voyez ce dîner extraordinaire, je frapperai à la porte, etc. Donc l'écriture est tellement riche et la clé d'une certaine manière d'entrée, il faut beaucoup de clés, il faut une multitude de clés, mais l'entrée évidemment est déterminante ici pour dire l'expérience de la grâce. Voilà, donc une petite évaluation qui problématise un peu les choses et qui renvoie évidemment à la suite du parcours parce que les questions 1, 2 et 3 de mon évaluation sont à traiter dans la suite. Alors, on va changer de décor avec le troisième chapitre. Donc, c'est la figure au XIe siècle d'Anselme de Canterbury que je vais vous proposer maintenant dans la suite. Et on va au moins faire une chose ce soir, d'essayer de voir le lien avec ce qui précède. C'est pour ça que j'aimerais bien encore en parler un peu ce soir, du lien. Donc vous avez de nouveau quelques dates de cette très grande figure du premier Moyen-Âge, donc la naissance dans le Val d'Aoste, l'Italie du Nord, le passage par le Bec et Loing, donc moine, abbé, archevêque ensuite de Canterbury, donc c'est la Normandie, 1093, et la mort le 21 avril 1109. Donc on a ici une théologie monastique qui nous est proposée, donc il y a un espace très spécifique, théologie bénédictine, monastique, qui suppose donc un espace de méditation, de prière, de lectio divina, évidemment comme chez Augustin aussi. Alors, si vous rappelez un peu le parcours qu'on a fait dans l'introduction, vous rappelez à ce moment-là que Anselme se situe à un moment de tournant décisif entre le premier et le deuxième millénaire latin, et Bernard Cesbouet utilise ici les deux termes « médiation descendante » médiation ascendante pour montrer ce passage. Médiation descendante, c'est-à-dire au point de départ est la grâce. Pour l'anthropologie et pour la christologie, l'œuvre de Dieu. médiation ascendante. Donc, on commence par l'humanité du Christ. Par l'humanité du Christ. Et c'est là où va intervenir, donc, la terminologie tellement, je dirais, mal comprise aujourd'hui. D'abord, la notion de sacrifice. Le sacrifice du Christ, l'Épître aux Hébreux. Et alors, cette notion anselmienne de satisfaction vicaire. Vicaire à la place de. La satisfaction vicaire. Et donc, on attribue à Anselme souvent ce que le père Cesboué a appelé le sombre florilège, dont je vous ai donné dans le chapitre 2 quelques éléments. Alors, une mise en situation, c'est ça que je voudrais surtout faire avec vous. Donc, on est de nouveau dans ce jeu relationnel entre le Christ, son œuvre rédempteur, et la réception de la grâce. Donc, la relation entre l'œuvre du Christ, mort pour nous, et la réception de sa grâce par l'homme. Et là, il y a une première différence par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, qui va intervenir, qui est assez décisif. Augustin interprète l'œuvre rédemptrice du Christ dans le cadre de sa théologie de la grâce. J'ai développé ça tout à l'heure. Donc, avec l'idée de libération et rachat, rappelez-vous le texte du De Trinitate que j'ai lu tout à l'heure sur la notion de rachat. Le sang, voilà, la libération par rapport aux démons. Libération et rachat sont situés dans le cadre d'une reprise de la philosophie néoplatonicienne. Et intervient ici donc la notion de péché d'Adam et la prédestination. Anselme va renverser cette problématique. C'est son interprétation de l'œuvre de la rédemption qui va lui imposer une nouvelle conception de la volonté humaine et de la liberté humaine. Donc, vous allez voir que mon interprétation d'Augustin est déjà marquée, d'une certaine manière, par ma lecture d'Anselme. Il faut bien que j'avoue cela. Vous voyez, dans ce cercle, l'œuvre du Christ et la réception de la grâce par l'être humain, je vous disais tout à l'heure, mais est-ce que Augustin ne commence pas finalement cette accentuation de la misère humaine? Alors chez Anselme, c'est l'œuvre du Christ qui est vraiment premier, qu'il réinterprète, et il comprend à partir de cela la liberté humaine. Il nous propose une nouvelle conception éminemment positive de la liberté humaine. Et c'est ça le seuil. D'où le titre de la théorie de la satisfaction à une conception nouvelle de la liberté humaine. C'est donc ça le pas que nous allons faire. Alors, ce renversement par rapport à Augustin annonce un nouveau rapport entre foi et raison. Un nouveau rapport entre foi et raison. Donc, ça, c'est là où je renvoie à Karl Barth, son magnifique texte sur Fidens Querens Intellectum, etc. Alors, prenons, je dirais, le texte qui va nous guider maintenant et dont vous avez de larges extraits dans l'annexe, mais regardez pas le texte parce que j'ai mis ça ici dans le polycopié pour le moment. Donc, le cur Deus homo que j'ai déjà situé. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? J'ai déjà cité ce texte plus haut à la page 14, il faut corriger 14. Cur Deus homo, livre premier, numéro 1. Une question donc d'où dépend tout l'ouvrage, souvent de la manière la plus insistante. Beaucoup m'ont prié, en parole et par lettre, de confier par écrit à leur mémoire les raisons que j'ai accoutumé de répondre à ceux qui me posent certaines questions sur notre foi. Ils disent que ces raisons leur plaisent et les jugent satisfaisantes. Ils les demandent, non pour accéder à la foi par la raison. Vous voyez, ça c'est souvent la première démarche. Fides querens intellectum. Accéder à la foi par la raison. mais pour se réjouir par l'intelligence et la contemplation de ce qu'il croit, et pour être autant que possible, très belle formule ici de la première lettre de Pierre, toujours prêt à satisfaire quiconque réclame la raison de l'espérance qui est en nous. La question d'habitude, les infidèles, l'objecte, en se riant de la simplicité chrétienne comme d'une sottise. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et beaucoup de fidèles le retournent dans leur cœur. La voici, la question. Par quelle raison ou quelle nécessité Dieu s'est-il fait homme? Et par sa mort, comme nous le croyons et confessons, a-t-il rendu la vie au monde? Alors qu'il aurait pu le faire ou bien par une autre personne, soit angélique, soit humaine, ou bien par sa seule volonté. Vous rappelez, je vous ai cité ce texte. Donc c'est ça la question. Alors, quel est le sens ici de ce célèbre intellectus querens fidem? Donc l'intelligence à la recherche de la foi, la recherche des raisons. La foi est supposée aussi chez saint Anselme. La foi est supposée. Mais l'acte consiste à la mettre entre parenthèses. Je mets la foi entre parenthèses. Donc à ce moment-là, je laisse advenir des questions. Je la mets entre parenthèses. Dans tel ou tel de ces articles, ici dans l'article central de la foi, l'incarnation pour le salut du monde, pour nous. Voilà. Pour en découvrir la rigueur rationnelle interne, et je souligne rigueur, la nécessité interne. Quelle est la nécessité interne? Quel est le sens de ce « ne fallait-il pas que » Il ne s'agit aucunement ici de rationalisme. Le projet d'Anselme est plutôt de rencontrer la rationalité interne de la proposition biblique en supposant que la raison humaine est à l'image de Dieu en l'homme. Donc si nous sommes créés à l'image de Dieu, donc notre jugement intérieur, notre rationalité peut découvrir les raisons internes de la proposition de la foi. Les raisons internes. Alors, l'exemple qu'on peut donner ici, que je réexplique rapidement, et ensuite encore quelques mots sur la démarche. L'exemple, c'est la célèbre preuve ontologique de Dieu, qui est tout sauf une preuve, dans le proslogion d'Anselme. Alors, il y a un présupposé de foi, c'est-à-dire une définition de Dieu. Mais voyez, j'ai mis « définition de Dieu » entre guillemets, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette définition de Dieu? C'est de reconnaître qu'il est indéfinissable. C'est l'indéfinissable par excellence. Mais c'est la raison humaine qui dit ça. La raison humaine, quand elle s'affronte au nom même de Dieu, « je suis celui qui est », prenons la traduction de la Septante, c'est celle que Anselme reprend en latin. Dieu se définit lui-même face à l'être humain comme radicalement indéfinissable. Je suis celui qui est. Et Anselme introduit ici, je vous donne tout de suite la traduction, ce dont plus grand ne peut être pensé. It quod maius cogitari nequit. Donc, vous voyez, c'est une manière de définir Dieu comme indéfinissable. Ce dont plus grand ne peut être pensé. Chaque fois que je le pense, Dieu, il m'a déjà échappé, si je puis dire. Parce que définir, c'est limiter, indiquer une finition, quelque chose de fini, une limite. Ce concept de Dieu implique alors une double démarche. Il traduit le nom de Dieu du côté de la foi, dans le langage de la pensée, je viens de le dire, mais cette traduction, deuxième version, conduit alors la pensée vers sa propre compréhension. Voyez, s'affrontant au nom de Dieu, la pensée comprend tout d'un coup ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle aimerait bien dépasser ses propres limites, mais qu'elle ne le peut pas. La pensée se comprend elle-même quand elle veut penser Dieu. Autrement dit, et c'est ça génial chez saint Anselme, ce que Karl Barth a parfaitement compris, peut-être le premier, d'une manière aussi nette. La Bible apprend quelque chose à la pensée et à la culture en conduisant la pensée à la limite de ses possibles par ce dont plus grande peut être pensée. Dieu fait que la pensée prend conscience d'elle-même en découvrant sa limite. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça c'est le tournant de Intellectus Querens Fidem chez Anselme, chez ce moine. Et à ce moment-là, on va l'appliquer à la démarche du cours Deus Homo. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire à l'intelligence de l'œuvre de la rédemption. La foi corrigée là en Jésus-Christ rédempteur est présupposée comme le nom de Dieu. Dieu s'est fait homme et a rendu la vie au monde par sa mort pour nous. C'est le numéro 1 du cours Deus Homo, ce que nous confessons. Double démarche. Anselme traduit cette confession dans le langage de la pensée. Le langage, quel est ce langage de la pensée? C'est le langage de sa culture, de la rectitude et de la justice. La rectitude et la justice. Parce que la pensée publique n'est pas seulement une pensée théorique, mais une pensée d'ordre éthique. Je rappelle de nouveau Deutéronome. Est-ce que Dieu est droit, rectitude? Est-ce que Dieu est juste? Voilà. Ça pose tout de suite la question, qu'est-ce que c'est la rectitude humaine et qu'est-ce que c'est la justice? Donc, ce que la Bible dit de la rectitude et dit de la justice apprend quelque chose à la pensée humaine de la rectitude et de la justice. Est juste, maintenant vient la définition. Celui qui fait ce qu'il doit faire en accomplissant la loi, mais attention, et c'est là on quitte totalement la pensée augustinienne, celui qui le fait volontairement et le fait pour la justice et pour la droiture. Voyez, vous avez toute une nouvelle définition de la liberté humaine qui émerge tout d'un coup ici. Voyez, la rectitude, ce n'est pas uniquement accomplir la loi, faire ce qui est nécessaire, mais c'est de le faire volontairement. Rappelez-vous, Origène, Dieu cherche une voie par laquelle nous fassions volontairement ce qu'il veut. Volontairement, et ne pas le faire par intérêt, mais de le faire pour la justice. La Bible nous apprend une nouvelle manière de comprendre la rectitude et la justice. Or, introduire l'œuvre de la rédemption dans le langage rationnel de la justice et de la rectitude, ça conduit cette justice et cette rectitude vers leur propre compréhension, comme la pensée un peu plus haut. Elles sont conduites à leurs limites et peuvent ainsi se comprendre elles-mêmes. Et voyez, à la fin, il y a deux livres dans le cours Deus Homo, vous trouvez ça à la fin, et c'est tellement important que je vous l'ai mis ici, mais vous l'avez aussi dans l'annexe. Je vais vous lire. « Quant à la miséricorde de Dieu » qui semblait périr, dans page 49-50. Lorsque nous considérions la justice de Dieu et le péché de l'homme, voici que nous l'avons trouvée si grande, si accordée à la justice, que ni plus grande ni plus juste ne se pourrait penser. Donc vous avez exactement ici la même formule qu'à par rapport à Dieu. Si vous pensez jusqu'au bout la justice de Dieu, vous arrivez à la miséricorde. Mais pas une miséricorde bon marché, comme dirait Bonnefer, mais une miséricorde pour laquelle Dieu lui-même a prié le payer le prix. Il a payé lui-même le prix parce que Dieu lui-même est celui qui est juste, parce que ce qu'il doit faire, c'est-à-dire en restant fidèle par rapport à lui-même, donc il s'oblige lui-même à être fidèle à lui-même et à son propre projet, il le fait volontairement et il ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour la justice et pour la droiture. Et à ce moment-là, Dieu fait quelque chose qui est si accordé à la justice que ni plus grand ni plus juste ne pourrait être pensé. Et donc, penser la justice à la rectitude divine, c'est conduire notre propre justice et notre rectitude à leur propre limite. Donc l'ultime mot de la justice, c'est la justice divine qui est sa miséricorde, mais qui n'est pas une miséricorde arbitraire, bon marché, voyez, crédité comme ça de l'extérieur, arbitrairement, sous forme d'un fatum, pour quelques-uns et pas pour d'autres, mais une justice qui a payé radicalement le prix de sa propre justice. Et c'est ça la miséricorde. Voilà, si vous voulez, en bref, la thèse d'Anselme. Et vous voyez, on est bien loin ici d'Augustin. On est bien loin ici. Et donc, la prochaine fois, je vais continuer à vous expliciter cela avec le débat critique de nouveau, qui va nous conduire alors vers Luther d'un côté et le Concile de Trente de l'autre côté. Bonne soirée.